Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h22, on est toujours ensemble dans le studio d'Europe Soir et on ouvre maintenant, comme chaque soir, vous le savez, le débat du Club des Idées. La France peut-elle se passer de ses touristes étrangers? Le secteur, on le sait, est en grande difficulté avec cette crise du Covid. Restaurants, hôtellerie, musées, patrimoine bien sûr, grands sites touristiques. Avons-nous les moyens de rester la première destination mondiale des touristes? Il y a derrière évidemment un enjeu économique majeur et des milliers d'emplois à la clé. À quoi ressembleront nos vacances dans les années qui viennent et puis dès l'été prochain, en 2021. On en parle ce soir avec nos invités. Jean-Pierre Mas, bonsoir, vous êtes président des entreprises du voyage. On en parle également avec Roland Aigui, vous êtes président de l'UMI, l'Union des industries et hôtelières françaises. Et vous êtes auteur aussi de Changeons notre tourisme, c'était aux éditions du Cherche Midi et c'est sorti je crois en janvier 2020. Bonsoir. Et on en parle également avec Vangelis Panayotis, vous êtes consultant en tourisme, président de MKG Consulting. Alors peut-être d'abord messieurs, un mot du constat. L'été a été plutôt bon pour l'hôtellerie et la restauration, mais sur la durée évidemment le compte n'y est pas. Roland Aigui, j'ai lu que vous dites que ce sont à terme peut-être 15% des établissements qui sont menacés de fermeture, faute de trésorerie et de perspectives.
Oui, malheureusement, c'est vrai, puisqu'effectivement on a eu un mois de juillet, un mois d'août favorable tout le long du littoral. Que ce soit Méditerranée ou que ce soit Atlantique. Donc le tourisme a bien fonctionné, surtout dans les CHR, les cafés, hôtels, restaurants. Mais c'était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt, parce que dès qu'on est arrivé en début septembre, on s'est aperçu qu'effectivement, on allait arriver dans l'heure de vérité, je dirais, et que tout n'allait pas se passer comme ça. Et je pourrais rajouter, malheureusement, que ce matin, j'ai reçu tous les acteurs du tourisme. On a fait un tour de table avec l'ensemble des acteurs du tourisme. Et c'est vrai que la situation était très inquiétante et le message commun était unanime sur l'inquiétude sur les semaines à venir.
Mais vous dites 15% des établissements pourraient fermer dans les mois qui viennent.
Moi, j'ai dit 15% des établissements vont fermer.
Mais c'est terrible.
Avec une capacité. Bien sûr que c'est terrible. C'est pour ça que
combien de milliers d'emplois à la clé pourraient disparaître?
200 000.
200 000.
Le chiffre, oui, effectivement. Le chiffre est sur le bureau de Bercy et sur le bureau du ministère du Travail. Et on connaît les raisons, c'est pour ça qu'on se bat tous les jours, j'allais dire, effectivement, pour éviter et pour accompagner ces entreprises pour qu'elles survivent.
Jean-Pierre Mas, même constat, vous êtes président des entreprises du voyage. Alors, il y a quand même des choses qui ont mieux fonctionné que d'autres cet été, puisque la situation est assez contrastée selon les régions et les types d'activités, évidemment.
Oui, moi, je vais vous dire d'abord ce qui n'a pas fonctionné, c'est les voyages des Français à l'étranger. Les Français sont restés en France et c'est une bonne chose pour le tourisme en France parce que les étrangers ne sont pas venus. Ensuite, en France, ce qui a marché cet été, c'est le tourisme de littoral, bord de la mer, le tourisme de campagne et de montagne.
Oui, on en parlera de la montagne, parce que c'est intéressant ce qui se passe du côté de la montagne.
Mais en revanche, le tourisme urbain, qui est un tourisme plutôt que pratiquent les populations, les visiteurs étrangers pendant l'été.
Oui.
Le tourisme urbain n'a pas du tout
Paris,
fonctionné.
Paris, par exemple.
Paris, ça a été une catastrophe touristique, parce que les touristes qui venaient de l'étranger ne pouvaient pas venir, et surtout ceux qui venaient en dehors de l'espace Schengen, eux ne pouvaient absolument pas venir. Les Américains, les populations du Golfe.
C'est assez fou d'ailleurs ce qu'on a vécu au-delà évidemment de la crise sanitaire. Quand on se promène dans Paris, quand on se promène à Bordeaux, quand on se promène dans les grandes villes touristiques françaises, on n'entend plus le chinois, le japonais, l'américain, le coréen, on n'entend plus.
Absolument. Les Chinois, il y a des entreprises, des agences de voyage qui sont spécialisées dans l'accueil des Chinois, qui ont jusqu'à 100 salariés à Paris et qui aujourd'hui ont
zéro activité.
Tant qu'il y a des aides et du soutien du gouvernement, ça va. Si ce soutien commence à lâcher, il va y avoir des dépôts de bilan et des licenciements importants.
Alors, question pour revenir sur notre débat, maintenant qu'on a posé le constat très malheureux et plutôt sombre pour les mois qui viennent. Vangelis Panayotis, vous êtes consultant en tourisme. Est-ce que la France peut, dans la durée, se passer de ces touristes étrangers? Quand je parle des touristes étrangers, c'est ceux qui, par définition, ne peuvent pas venir aujourd'hui en France. Donc hors Europe, principalement.
Évidemment, on a notamment l'industrie du luxe ou haut de gamme, qui est celle qui vit essentiellement avec ce type de clientèle. On sait qu'on a un trou d'air. On voit que les compagnies aériennes espèrent un retour à la normale en 2025. Donc ça paraît très loin. Comme Roland l'évoquait, il va falloir survivre entre-temps. Il y aura évidemment de la casse, c'est sûr. Mais souvent, on perçoit mal l'impact qu'a le tourisme sur d'autres secteurs. Aujourd'hui, touristes internationaux à Paris, ils vont manger, ils vont découvrir la gastronomie dans les restaurants étoilés, ils vont aller faire leurs courses aux Galeries Lafayette. Il y a tout un écosystème qui vit comme ça et qui aujourd'hui est mal perçu en termes d'impact. Donc il va falloir qu'on trouve des clientèles de substitution. mais il va falloir aussi, surtout, qu'on adapte les modèles.
Alors, on va voir, justement, dans quelques secondes, après la première pause, comment le tourisme français peut se réinventer, parce que, vous le disiez, la France reste la première destination mondiale avec plus, tenez-vous bien, de 89 millions de visiteurs étrangers par an. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on ouvre, comme chaque soir, vous le savez, à partir de 19h30, le débat du Club des Idées. Deuxième partie à présent, la France peut-elle se passer de ses touristes étrangers? On en parle ce soir avec nos invités, le secteur est en grande difficulté. Alors comment le tourisme français va-t-il se réinventer? On parlait juste avant la pause de l'impact, de l'absence des touristes hors européens qui sont très nombreux chaque année à venir en France. Hein, la France qui reste, vous le savez, la première destination touristique au monde. Écoutez par exemple la directrice de la communication du comité de tourisme Côte d'Azur. Elle dresse le bilan pour la saison.
De juillet à septembre, le Moyen-Orient, les États-Unis, le Canada et la Chine représentaient à peu près 850 000 touristes sur 1,4 million. Tant qu'il n'y a pas l'ouverture de ces frontières hors espace Schengen et que les flux aériens ne sont pas ouverts, ça va être un manque.
Voilà, au micro de Frédéric Michel. Alors, on estime que l'épidémie de Covid a entraîné une chute de 49% des recettes touristiques internationales sur le seul premier semestre. Je parle sous votre contrôle, Roland Aigui. Vous êtes président de l'UMI, hein, qui regroupe les restaurateurs et les hôteliers français. La France, première destination mondiale, donc. Ça veut dire que quand il n'y a pas de touristes étrangers, il y a, par définition, moins d'activités. J'ai vu qu'un visiteur, étranger, quand il vient en France et qu'il reste quelques jours, il dépense en moyenne 551 euros et ça monte jusqu'à 1500 euros pour les Chinois et les Japonais. Donc c'est autant d'argent en moins, j'allais dire, pour l'industrie du tourisme.
Bien sûr, c'est malheureusement, c'est aussi d'argent en moins pour l'hôtellerie prestigieuse de luxe que l'on a en France, qui est reconnue dans le monde entier. La preuve, c'est que toutes ces clientèles américaines, asiatiques, chinoises viennent dans ces établissements-là.
Et alors, comment on fait pour les remplacer? Est-ce que seuls les Français peuvent remplacer cette manne financière importante pour toute l'industrie?
Alors, premièrement, il faut que l'activité économique reparte, quoi qu'il arrive.
Oui. Ouais.
En face, effectivement, pour consommer, il faut que ça aille bien, il faut avoir des clients, il faut avoir de la consommation. Donc, les entreprises doivent, au départ, repartir. Alors, il y a quelques signes dans ce domaine-là qui sont favorables. Mais, effectivement, les chiffres que vous avez annoncés sont vrais, j'allais dire, puisque sur ces 90 millions de touristes étrangers, à la fin de l'année, on va s'apercevoir qu'il n'y en a pas 20 à 25% qui sont revenus en France et qui vont dépenser de l'argent. Et c'est vrai que si on rajoute dans ces tourismes étrangers aussi, ce qui est très important, le tourisme d'affaires,
oui,
qui représente globalement plus de 35% du chiffre d'affaires en France. Dans le tourisme d'affaires, il y a l'événementiel, il y a effectivement cet écosystème, comme le disait Vangelis, qui est très très important. Et donc, en termes de business, va nous échapper cette année.
Et vous dites, la clé pour relancer l'économie touristique en France, ce sont les territoires, c'est la ruralité. J'allais dire, vous êtes un peu Jean Castex avant l'heure. Expliquez-nous ça. Parce que vous dites aujourd'hui, le tourisme, il se concentre sur 20% à peu près du territoire. Donc, il y a 80% du territoire dans lesquels il faut aller proposer des offres aux touristes.
À l'UMI, on a cette capacité, effectivement, d'avoir un observatoire. On s'aperçoit que 85% des touristes aujourd'hui, était sur 20% du territoire français. Donc, c'est 20% étouffé. Alors qu'on n'arrête pas de dire que la France est un pays majestueux, où il y a des territoires extraordinaires, il y a des départements, enfin voilà, des sites. C'est que le problème, c'est qu'on ne pouvait pas y accéder. Donc, la partie effectivement positive, on peut imaginer que quand on parlait de repenser le tourisme,
oui,
effectivement, avec les territoires, avec les départements, avec les régions et avec l'État, on pourra commencer, d'ailleurs, on l'a vu, à cette volonté de remettre des trains sur les territoires, de faciliter les accès et la mobilité, on arrivera effectivement peut-être à redécouvrir ces territoires qui sont extraordinaires.
Vous êtes d'accord, Jean-Pierre Masse, vous êtes président des entreprises du voyage. C'est ça la clé pour relancer l'industrie du tourisme en France et peut-être se passer de ces touristes étrangers qui ne vont pas revenir de sitôt. C'est la ruralité, c'est le développement du territoire.
Alors je ne crois pas qu'on puisse se passer à long terme des touristes étrangers et je souhaite qu'ils reviennent rapidement, ne serait-ce que parce que leur contribution financière est plus importante que les Français.
Et oui, ils dépensent plus que les Français quand ils viennent chez
nous. Ils dépensent plus que les Français. Et beaucoup plus même. Surtout les touristes non européens.
Oui.
Ça, c'est le premier point. Sur les territoires, il y a une avancée, c'est l'aménagement du territoire. On a aujourd'hui François Bayrou qui est responsable de la planification.
Oui.
Et j'espère qu'il se saisira dans la planification des anciennes attributions de la DATAR, c'est-à-dire de l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire en matière touristique, c'est absent des radars depuis les années 1960.
Mais de ce point de vue-là, par exemple, un acteur comme Airbnb, qui est parti maintenant à la conquête des campagnes, des montagnes. Alors je sais que ça fait de la concurrence aux hôteliers, mais est-ce que c'est un allié ou un ennemi ?
Ce serait un allié, et c'est un allié, s'il joue à armes égales avec les professionnels.
Ce qui n'est pas le cas, évidemment.
Ce qui n'est pas encore le cas. Ça le deviendra certainement, et dans ce cas-là, pourquoi ce ne serait pas un allié ?
Alors, en termes d'aménagement du territoire, il y a un exemple assez frappant cette année, c'est la montagne, on l'évoquait tout à l'heure, c'est l'une des destinations phares de l'été. Année après année, c'est désormais, je crois, la deuxième destination préférée des Français après le littoral. Comment est-ce qu'on fait, voilà, quand on est patron de collectivité, quand on est patron d'une station de ski l'hiver et puis de sport d'été pendant la période estivale, pour attirer les clients, pour attirer les touristes, qu'ils soient d'ailleurs français ou étrangers? Vagelis Panayotis, vous êtes consultant en tourisme.
Aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie diversification de ces stations. On ne parle plus de stations de ski, on parle de stations de montagne, parce qu'elles vont essayer de fonctionner à la fois l'été et l'hiver, et donc proposer des bases aqualudiques également, des animations pour les familles, des randonnées. Et aujourd'hui, je pense, on ne l'a pas encore évoqué, mais est-ce qu'il y a un monde d'après pour le tourisme ? On parle souvent du monde d'après, le Covid. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des faisceaux faibles qui ont été probablement accélérés par cette crise du Covid. Et les gens ont besoin de redonner du sens à leur acte d'achat de services touristiques. Aujourd'hui, on a envie de local, d'authenticité, on a envie d'histoire, de terroir. C'est ce que recherchent les gens.
Donc ça veut dire que l'industrie du tourisme doit s'y adapter aussi et doit s'y convertir d'une certaine manière.
Ouais, d'ailleurs, on l'a vu et Roland le confirmera peut-être, les établissements de petite taille en ruralité, c'est vraiment ceux qui ont rencontré un succès cet été. C'est ce que les gens sont venus aller chercher.
Alors en parlant de ruralité, il y a Jean Dossonville qui est avec nous par téléphone, directeur général du domaine national de Chambord. Évidemment, château de François Ier que tout le monde connaît. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Merci de nous accorder quelques instants. Alors cette année, vous avez perdu 90% de vos touristes internationaux, comme beaucoup dans l'industrie du tourisme. Mais vous avez rattrapé votre activité grâce aux touristes français qui étaient évidemment plus importants, qui ont peut-être dépensé un peu plus. Mais je voudrais vous entendre, monsieur, sur le besoin de vous diversifier. C'est ce qui a été dit, vous l'avez entendu ici en studio. Ce besoin, vous le ressentez aussi pour proposer un tourisme différent ?
Oui, en fait, on le ressent depuis déjà quelques années. C'est-à-dire qu'il y a une demande de nature, d'environnement naturel qui est ancienne également, de bons produits, de gastronomie, d'authenticité qui n'était pas nouvelle. Elle a pris un tour beaucoup plus aigu avec le confinement, peut-être aussi avec la conscience de la crise climatique.
Donc chez vous, à Chambord, ça passe par quoi cette offre multiple et proche de la nature ?
Depuis quelques années, en fait, on a élargi les propositions d'activités. D'abord, en élargissant les promenades ouvertes au public. On a ouvert 250 hectares de promenades en plus qu'on a aménagées. On a restauré nos jardins, jardin anglais, jardin la française. On vient de recréer des potagers conduits en permaculture. On a développé et géré en direct tout ce qui était promenade en vélo, en barque.
Et ça fonctionne tout ça ?
Eh bien, ça fonctionne très bien. Cet été, c'est là-dessus qu'on a fait les plus belles progressions en chiffre d'affaires. Et donc, on s'en sort malgré tout cette année. C'est-à-dire qu'il faut voir les choses aussi. Alors, négativement, on va quand même faire la pire année touristique depuis la libération. Mais malgré tout, on limite la casse parce que on a eu plus de Français cet été, et surtout les Français ont plus dépensé. Et donc, on ne rattrapera pas globalement, mais disons qu'à partir de la sortie du confinement, ce qu'on voit, c'est qu'on a quasiment retrouvé notre niveau de recette de l'an dernier, parce que les Français qui venaient dépenser plus, et notamment, par exemple, louaient plus de bateaux, vélos, consommaient plus de glace, donc nos terrasses de café, etc.
Bien. Alors, on va marquer une courte pause et puis on se retrouve, vous restez avec nous, monsieur Dossonville. J'ajoute que c'est bientôt le Brame du Cerf, alors il y a plein de gens qui vont venir vous voir, allez-y. Je connais bien ce spectacle puisque j'ai grandi à côté de Chambord personnellement. Voilà, n'hésitez pas à aller au château de Chambord, ça fera des touristes supplémentaires. À tout de suite, on se retrouve en direct sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours en direct le débat du Club des Idées, et ce soir on s'intéresse au tourisme. La France peut-elle se passer de ses touristes étrangers et à quoi ressemblera le tourisme demain après cette crise inédite qu'a connue le secteur, qui va peser très lourd dans l'économie et dans l'industrie touristique, que ce soit pour les restaurants, les hôtels, les sites touristiques, les musées, voilà toute l'industrie. Alors on évoquait juste avant la pause la manière de se réinventer. C'est une question que j'ai envie de vous poser, Jean-Pierre Masse, vous êtes président des entreprises du voyage. À quoi d'abord va ressembler notre été 2021? Vous allez me dire ça dépend de la crise sanitaire, mais comment vous imaginez la suite? Et est-ce que d'une certaine manière, on est en train de tourner la page du tourisme de masse?
Alors, si vous considérez le tourisme de masse comme un gros mot, non, le tourisme de masse, c'est...
Ce n'est pas un gros mot dans ma bouche. C'est la démocratisation du tourisme cher qui permet à chacun de partir à peu près où il veut.
C'est le résultat d'une lutte sociale, de conquête sociale. Oui. Ça s'est fait pendant 70 ans, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Oui. Et aujourd'hui, c'est un droit et en matière de conquête sociale, on ne revient pas en arrière. En revanche... le comportement des touristes va évoluer.
Mais voyez qu'on a changé d'époque quand même. Avant, il fallait avoir un bel hôtel, une piscine, aller au bord de la mer, voir du monde, sortir dans les restaurants, aller en discothèque, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est un retour à la nature, l'aspérité des touristes,
absolument,
y compris français.
Ces bruits de fond que l'on entendait un petit peu, ils sont de plus en plus forts. La tourismophobie, la nature, c'est retour à la nature, le cocooning, vivre dans un milieu dont on est sûr, où le nesting, dans une sorte de nid avec des amis, dans un bon confort, dans des bonnes conditions de vie, pas nécessairement un confort de luxe. Ça, c'est deux points importants. Le troisième également, c'est profiter un petit peu plus de ses vacances.
Oui.
Le voyage à jeter. Le week-end où on partait le vendredi soir.
Le city break, comme on dit.
Voilà, le city break, et où on passait en fait deux nuits, une journée, on avait fait Rome, et on avait vu la fontaine de Trevi, et c'est tout.
En express.
Et là, ça va être remplacé certainement, et assez vite, par des voyages plus longs, où l'on ira moins vite, un slow tourisme, où on profitera un petit peu plus de l'environnement, on profitera des gens avec qui on voyage.
Et Roland Hégui, est-ce que la France et les industries que vous représentez, les restaurateurs, les hôteliers, sont prêts pour cette mutation?
Bah écoutez, c'est un petit peu comme dans le sport. Vous savez, ce Covid-19, effectivement, nous, on est en train de... C'est comme une défaite. Donc, on est en train de repenser on essaie de tirer parti de cette défaite. Donc, effectivement, on parlait de la montagne, on parlait des zones de la ruralité. Quoi qu'il arrive, le maître mot, ça va être la qualité. Il ne faut jamais le perdre de vue, ça. C'est-à-dire que toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, qui sont réactives, qui amènent des spécificités, des nouvelles spécificités particulièrement, je parle en termes de consommation, de production dans les territoires, tout ça, on sent que tous ces territoires, soutenus justement par les départements, par les régions, ont envie de faire revivre et renaître et reconnaître ces régions-là, ces départements, parce que c'est effectivement essentiel pour l'économie française.
On a vu d'ailleurs qu'il y avait une guerre de communication des collectivités. Ouais. Sitôt le confinement terminé, venez dans le Puy-de-Dôme, venez sur la Côte d'Azur, venez dans les Pyrénées. Et c'est vrai que la montagne, de ce point de vue-là, était l'un des grands gagnants de cet été particulier qu'ont connu les Français. Mais demain, est-ce que... il va falloir changer de paradigme, que ce soit pour les restaurateurs, les hôteliers, que ce soit pour cette industrie du tourisme.
Ça se fera naturellement, parce qu'on sent qu'il y a une envie de la part du consommateur, du client, de changer, de découvrir autre chose aussi, par rapport à tout ce que vous avez cité. Et après, effectivement, en face, il faut que ces chefs d'entreprise soient innovants. C'est pour ça que je mets toujours le mot qualité, quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau, que ce soit une auberge, que ce soit dans un... Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a toute une volonté, même... Moi, je le vois, je suis du Pays Basque.
Ça s'entend un petit peu, oui. Je vous confirme.
le nombre de villages dans le Pays Basque qui travaillent énormément bien, parce qu'effectivement, ils sont toujours en recherche de qualité. Et il y a cette authenticité, cette volonté de faire découvrir ses racines et ce pays-là. Et bien, eux passent justement à travers les mailles pour le moment.
Vangelis Panayotis, vous êtes consultant en tourisme, président de MKG Consulting. Comment vous l'imaginez, vous, ce tourisme dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans?
Alors, d'abord, le tourisme, ça reste quand même une industrie lourde qui mobilise beaucoup de capitaux. Donc, ça ne va pas pivoter comme une danseuse étoile. C'est assez compliqué. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir une vraie volonté politique pour ce secteur. Il faut l'accompagner. On a vu que c'était assez complexe.
Ça représente 8%, je crois, du PIB français, le tourisme.
On est à 8% du PIB, ce qui est assez colossal pour une économie d'un pays du G7. On ne parle pas de la Grèce ou des Caraïbes.
Oui, bien sûr.
On est quand même dans une industrie qui est assez lourde. Et donc, il va falloir qu'on accompagne cette transition parce que d'abord, elle est extrêmement consommatrice d'emplois qui sont entre guillemets non délocalisables. Mais ça, c'est un grand sujet. C'est la valeur ajoutée qui se délocalise. Mais en gros, il faut qu'on arrive à réinventer, à reprendre la main sur la destinée de notre tourisme. Les gens cherchent vraiment, vont changer de vie. On voit aux États-Unis, souvent les tendances viennent un peu de là-bas, il y a une vraie notion au nomadisme. On a vu avec le télétravail, on a vu que les gens réorganisent leur vie et vont peut-être demain, il y a eu des cas cet été, des jeunes qui étaient en télétravail, pas cité mais dans une auberge jeunes et voilà, ils avaient fini leur visioconférence, il y avait des vagues, ils sont partis surfer, ils revenaient, ils recommençaient à bosser. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais
ça peut, participer à profiter à l'industrie du tourisme, c'est ça ce que vous dites. Oui. C'est de nouveaux usages de la vie du quotidien.
Oui, mais il va falloir s'adapter et ça va prendre aussi un peu de temps. Donc cette transition, il faudra l'accompagner et elle sera multiple, ce ne sera pas... un type d'hôtellerie ou un type de service qui va correspondre à tout le monde. Il va falloir s'adapter à chaque moment de vie que chacun a envie de vivre un instant T. Mais vous savez, il y a 30 ans, le tourisme était un formidable outil d'irrigation économique du territoire. Oui. Et c'est vrai qu'au fil des dernières années, il s'est un peu concentré sur certaines destinations.
Alors comment ça va se passer dans le Loir-et-Cher ? On est toujours en ligne avec Jean Dossonville, directeur général du domaine national de Chambord. Comment imaginez-vous, vous, le tourisme autour du château de Chambord avec son écosystème, vous l'évoquiez tout à l'heure, ses nouveaux usages dans les années qui viennent ?
En fait, il y a deux pistes. D'abord, pour le tourisme international, la priorité, ce sera les touristes européens, c'est-à-dire ceux qui peuvent venir par le train, la route, sans passer par le transport aérien, parce que c'est une piste sûre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a peut-être pas assez travaillé nos pays voisins, amis, comme les Allemands, par exemple, qui sont un marché très intéressant et mûr. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point pour les Français, oui. Nous avons beaucoup progressé en fréquentation française et je crois que nous allons continuer de le faire parce que je rejoins tout ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que le luxe aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est cher, le luxe, c'est ce qui est authentique et ce qui est durable. Et en fait, tout l'objectif du tourisme durable, c'est de ne pas devenir un tourisme élitiste, mais un tourisme accessible au public le plus large. Ce serait ça, en fait, la poursuite de la conquête sociale, une conquête sociale et écologique, bien sûr. Et donc, dans la réflexion, il faut que nous puissions offrir des moments merveilleux, parce que Chambord est un moment merveilleux, à tous, et notamment aux familles. Et ça peut être des choses très simples. Hein. Vous savez, ça peut être, par exemple, passer des moments assis sur une prairie, ou allongé dans l'herbe, ou à pique-niquer. Le fait que ce soit permis, mais en face d'un monument merveilleux, c'est quelque chose de très important.
On n'est plus dans la quantité, on est dans la qualité. Merci à tous les trois, à tous les quatre même, d'avoir été ce soir nos invités dans le débat du Club des Idées. Et vive l'économie française, vive le tourisme français. Il est 19h49, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants et on plongera dans les archives. On vous racontera une histoire secrète dans le cadre du procès de Charlie Hebdo qui se tient en ce moment à Paris. À tout de suite.